Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce magazine d'actualité du week-end. Au programme aujourd'hui, la légendaire rubrique littéraire de Václav Richter est consacrée aujourd'hui aux barres HLM construites durant la période communiste et qui entourent jusqu'à certains petits villages. Avant cela, place au théâtre avec Lucie Dreselova et plus précisément au Festival des théâtres des régions d'Europe. Patience, c'est tout de suite. Bonne écoute à tous et à toutes. Événement phare dans le monde du théâtre tchèque, la 20e édition du Festival des théâtres des régions d'Europe s'est achevée lundi dernier dans la ville de Hradec Králové en Bohême de l'Est. Accompagné d'un riche programme en plein air, le festival a proposé quelques 300 spectacles, conférences et débats. Parmi les conférenciers ayant participé à cette édition 2014 du festival figuraient les époux Mouna et Lassad Yamoussi, respectivement metteuses en scène et professeurs à la faculté des lettres de Sfax en Tunisie. Au micro de Lucie Dreselova, tous deux ont évoqué non seulement les contours de la coopération tchéco-tunisienne dans les domaines culturels et dramatiques, mais aussi proposé des réflexions sur le lien entre la culture et les libertés humaines en Tunisie.
Culture sans frontières.
Depuis 25 ans, Mouna Djamoussi est metteuse en scène et enseigne l'art dramatique au collège pilote à Sfax, qui est la deuxième ville plus grande en Tunisie.
Je suis professeure de théâtre parce que chez nous en Tunisie, nous avons une session théâtre, c'est-à-dire les élèves ont un cours de théâtre plus des ateliers de théâtre. Et là, il s'agit des élèves du collège pilote. Donc je suis soi-disant spécialiste dans le cadre de l'enseignement théâtre scolaire. Et c'est bien à partir des jeux dramatiques et à partir des improvisations qu'on pousse l'élève à connaître son corps, ses capacités. Et c'est tout en jouant qu'on apprend aussi les langues. La langue française ou bien l'anglais ou bien c'est à partir des jeux. Et puisque le théâtre est un langage universel, on pousse l'élève aussi à connaître l'autre et à respecter l'autre. Et c'est dans ce cadre que nous organisons chaque année un grand festival, c'est le FILAS DH, c'est le Festival International Lycéen des Arts Scéniques et Droits de l'Homme, à Sfax en Tunisie, pour essayer de rassembler le maximum des élèves chez nous, pour cohabiter ensemble et pour vivre ensemble toute une semaine de partage et de respect mutuel.
En 1969, Habib Bourguiba, premier président de la Tunisie indépendante, a fait de son pays le premier à rendre obligatoire l'enseignement de l'art dramatique à l'école. Il a aussi créé l'Institut supérieur d'art dramatique qui forme des professeurs de collège et lycée.
Le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas assez de professeurs de théâtre pour enseigner cette matière, car la plupart des professeurs préfèrent tout ce qui est mise en scène, préfèrent devenir des comédiens, jouer dans du théâtre ou du cinéma, et ils évitent un peu l'enseignement, parce que, comme vous savez, l'enseignement, il est bien cadré, il a des horaires précis qu'il faut respecter, il y a un côté pédagogique qu'il faut respecter.
À la différence de son mari, Mouna Djamoussi ne découvrait pas la République tchèque et plus particulièrement Hradec Králové au Festival du théâtre des régions d'Europe. Il était déjà venu en mars dernier pour des journées consacrées à la Tunisie pendant la semaine de la francophonie. Mouna Djamoussi précise de quoi il s'agissait.
C'est l'échange de Filas Dehar, c'est-à-dire quand on a reçu les élèves de Hradec, puis il y a les Tunisiens qui sont venus aussi dans le cadre de la semaine francophonie. Et ils ont présenté, nous avons présenté toute une semaine tunisienne, c'est-à-dire théâtre, un grand défilé de costumes traditionnels, un grand buffet tunisien sfaxien, et puis plein de chansons aussi, musique, et des poupées. On a invité aussi avec nous une artiste pour présenter les poupées de la Tunisie.
En Tunisie, les élèves commencent à apprendre le français à l'âge de 9 ans. Même si la majorité des pièces que dirige Mouna Djamoussi sont en arabe, d'autres permettent d'apprendre mieux la langue française. Les thématiques abordées varient sensiblement.
Le rêve de Médina, c'est concernant la propreté, l'environnement. On rêve d'une nouvelle Médina. Et chaque année, nous avons un thème, mais c'est toujours du théâtre qui est en relation avec des valeurs universelles, que ce soit concernant la nature, la protection, ou bien l'homme en tant qu'être humain. Chaque année, un thème, mais en fait, c'est tout en jouant qu'on donne des informations à l'élève concernant tout ce monde qui l'entoure.
Pour autant, Mounajja Moussi n'évite pas les sujets politiques, souvent abordés indirectement à travers les valeurs. Les lycéens tchèques de Hradec Králové découvriront sans doute la variété de la production théâtrale de leurs jeunes collègues tunisiens quand ils se rendront à la 3e édition du Festival international lycéen des arts scéniques et des droits de l'homme à Sfax. Puis, en mars 2015, les élèves tunisiens rendront visite à leur tour à ceux qui, entre-temps, seront probablement devenus leurs amis tchèques. Un exemple de coopération internationale qui fonctionne bien. Mais Hradec Králové, plus particulièrement ses théâtres Klitspera et de marionnettes Drak, participeront à une nouvelle série d'échanges, comme le précise Lassad Djamoussi, professeur à la faculté des lettres de Sfax et ancien président de la section sfaxienne de la Ligue tunisienne pour les droits de l'homme. Lassad Djamoussi a parlé de la Tunisie culturelle lors d'une conférence à Hradec Králové. Mais c'est tout d'abord le plus grand festival international de théâtre en Tunisie et la vocation de celui-ci qu'il a évoqué.
Il est intitulé « Les journées théâtrales de Carthage » pour alterner avec les journées cinématographiques de Carthage. Ce n'est pas parce que ça se passe dans la localité, dans la ville, dans la cité de Carthage, mais parce qu'il s'inspire de tout cet esprit de Carthage. Esprit de Carthage qui est celui de la mosaïque, celui de l'ouverture, celui des rapports entre les Amazirtes, les Berbères, les Autochtones, qui étaient donc les premiers habitants de la première civilisation nord-africaine. Et puis l'arrivée de Alissa en 814 avant Jésus-Christ. Et puis, comme elle entretient également des liens très importants avec la Grèce, on a donc ce lien avec la civilisation grecque. Donc c'est une méga métaphore. Et donc voilà l'esprit de Carthage. C'est un esprit de partage, c'est un esprit d'ouverture, c'est un esprit donc de tolérance, et c'est un esprit qui ne veut pas cultiver de chauvinisme culturel.
La nouvelle coopération entre ce festival et celui de Hradec Králové prendra alors plusieurs formes.
Les journées théâtrales de Carthage, qui sont donc le festival international de théâtre le plus important en Tunisie et l'un des plus importants en Afrique et dans le monde arabe, sera tout à fait disposé et heureux d'ailleurs, et c'est tout à fait dans notre intérêt, de tisser des relations de jumelage avec ce festival, avec le festival européen des régions. Un. Deux, nous sommes convenus ensemble de se conseiller, de se donner des conseils. Chaque fois que je vois quelque chose d'intéressant, qui peut être intéressant pour la Tchéquie ou pour le festival de Hradec, je le mentionne. À chaque fois que Yana, aussi de son côté, découvre quelque chose d'original, d'intéressant, même dans d'autres festivals, dans d'autres plateformes, on se renseigne. Donc ça, c'est un protocole intéressant.
Cela ne fait que quelques mois que Lassad Djamoussi préside les journées théâtrales de Carthage. En raison de retards accumulés dans la nomination des directeurs des grands festivals, le Festival du théâtre de Carthage ne se tiendra qu'en 2015 et non pas dès cette année comme initialement envisagé. Suite à son passage à Hradec Králové, Lassad Djamoussi envisage sérieusement une participation tchèque à son festival.
Quelle forme prendra cette participation? Je ne peux pas le jurer. Les formes de participation sont généralement protégées par les accords bilatéraux culturels entre les pays. Comme je ne sais pas encore s'il y a des accords existants, s'ils n'existent pas, j'en ai déjà discuté avec M. l'ambassadeur de Tunisie. Il m'a promis d'intervenir de son côté pour faire exister un protocole d'accord culturel. Et s'il existe, bien sûr, ça va nous faciliter la tâche. Mon choix est pratiquement fait pour au moins deux pièces tchèques.
Et parmi ces deux pièces figure notamment le dernier truc de Georges Méliès du théâtre Drak. Lassad Djamoussi explique pourquoi ce spectacle a retenu son attention.
Le dernier truc de Méliès, une pièce véritablement magnifique, fabuleuse, extraordinaire, qui est faite avec des techniques mixtes qui rappelle toute l'atmosphère de Georges Méliès, qui est l'inventeur des trucs. Quel bel hommage que le Drak Théâtre fait à cet inventeur et qui était également magicien, prestidigitateur, qui avait son propre théâtre, qui inventait lui-même, qui était donc un acteur de théâtre d'objets. C'est vraiment un grand hommage qu'on lui fait au moment, en 2014-2015, qui correspondent à 100 ans de la disparition de l'œuvre de Méliès. Vous savez que Méliès a terminé donc presque à la guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Il était abandonné, il était ruiné, il a brûlé une partie de ses films. Et il a fini sa vie comme vendeur de marionnettes et d'objets et de poupées dans la gare de Saint-Lazare, je crois.
Autre forme de coopération également envisagée, celle de séjour d'étudiants tunisiens de 2 à 4 mois au théâtre Drac pour suivre l'ensemble du processus de création et les premières semaines d'exploitation d'un projet théâtral. L'idée finale étant de mettre en valeur un art moins apprécié en Tunisie, l'art des marionnettes. Pour la Sadia Mussi, ce premier voyage en République tchèque a été l'occasion de découvrir à la fois le pays et la programmation du festival de théâtre de Hradec.
Et j'ai trouvé que le niveau du festival et la programmation, la sélection est vraiment excellente. Je suis vraiment enchanté par ce bain de théâtre avec des tonalités que je ne connaissais pas bien, celles de la langue tchèque, d'une certaine esthétique, notamment du Drac Théâtre et de ce qu'ils ont produit ou de ce qu'ils ont créé, de ce qu'ils ont présenté. Donc dans leur espace, selon cette esthétique de la marionnette, de la marotte, du théâtre donc d'objets, tout ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose, une tradition très ancienne en Tchéquie, dans ce pays, enfin en Europe centrale de manière générale, faut le dire. Et puis le Drac Théâtre, je le mentionne plus que les autres, est également un théâtre très réputé, donc on en a toujours entendu parler. Et mon bonheur a été grand de le découvrir en grandeur nature.
La découverte par la Sadia Mussi du festival de Hradec Králové pourrait donc bien avoir une certaine influence sur la programmation des prochaines éditions des Journées théâtrales de Carthage, avec une plus grande attention portée sur toute la région de l'Europe centrale.
Ces nouvelles régions du monde, ces nouvelles contrées, qui nous ressemblent, avec lesquelles nous pouvons avoir de très belles relations, qui nous ressemblent au niveau du nombre d'habitants, au niveau du printemps, vous avez cultivé le printemps de Prague en 68, et ça a été pour nous, à l'époque, moi j'étais étudiant, quelque chose d'extrêmement émouvant. Nous avons donc le printemps arabe, nous avons initié le printemps arabe, et l'année dernière, au Filas des Haches, il y avait un hommage spécial à la République tchèque, et une semaine culturelle tchèque en Tunisie, justement en hommage à la transition démocratique que vous avez expérimentée maintenant depuis une bonne vingtaine d'années.
S'interrogeant sur les facteurs en action lors d'une transition démocratique, la Sadia Mussi souligne l'importance de la culture.
Contrairement à ce que pensent la plupart des politiques, malheureusement. Ils pensent malheureusement que la culture est quelque chose qui vient avec, qui accompagne. C'est un peu la cinquième roue. Je suis de ceux qui pensent que la culture est fondatrice du changement. Parce que sans atteindre les mentalités, on ne peut pas atteindre les comportements. Ce n'est pas en promulguant des lois qu'on va changer la société.
Outre sa carrière de professeur dans une université où il a longtemps été le chef des syndicats, la Sadia Mussi est aussi l'auteur de nombreuses publications, notamment « Les chemins croisés de l'art abstrait Orient-Occident ». Frappé par une interdiction de travailler dans le domaine du théâtre sous le régime de Ben Ali, la Sadia Mussi a été pendant 10 ans le président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Toujours engagé et militant, il appelle aujourd'hui à la réintégration des artistes compromis par la collaboration avec l'ancien régime, si ceux-ci demandent pardon.
Je crois que c'est ça le rôle de l'agitateur culturel. Je pense que notre plaisir de vivre est de lire, écrire, proposer, nouer des contacts, organiser, faire de sorte à ce que notre environnement, du plus local au plus général, s'améliore.
Le passé, le présent et l'avenir des bars d'immeubles qui ont été construits en Tchécoslovaquie dans la seconde moitié du XXe siècle et entourent aujourd'hui des villes tchèques. Tel est le sujet d'un livre sorti en 2013 aux éditions UPM, Arbor Vitae. Plus de détails dans la rubrique littéraire de Václav Richter.
Rencontre littéraire. Les silhouettes des bars, d'immeubles et des tours sont typiques pour les banlieues de la majorité des villes tchèques. Lors de la chute du communisme en Tchécoslovaquie en 1989, il semblait que le glas sonnait pour ces cités dortoirs en panneaux préfabriqués et certaines voies radicales appelaient à leur démolition. Aujourd'hui, ces édifices nous abritent toujours, nos vies se déroulent toujours dans leur décor et cela ne changera probablement pas même dans l'avenir. Dans le livre intitulé « Quand l'utopie devient réalité »,« Když se utopie stane skutečnosti », son auteur Lucie Zadražilová cherche à cerner le phénomène des quartiers résidentiels tchécoslovaques construits entre 1953 et 1989 et apporte un regard objectif sur ce chapitre de l'évolution de l'architecture tchécoslovaque que nous croyons parfois connaître, mais qui nous échappe à cause de nombreuses idées reçues. Trois millions d'habitants tchèques vivent dans les quartiers en panneaux préfabriqués auxquels Lucie Zadražilová a consacré son ouvrage.
J'ai divisé mon livre en trois chapitres. Dans le premier chapitre, que j'ai intitulé « L'utopie », j'évoque les origines de cette problématique et l'idée utopique de l'avant-garde internationale dans les années 20 et 30 de loger tous les gens sans différence dans des appartements de même qualité. Le deuxième chapitre est consacré à la situation tchécoslovaque après la Deuxième Guerre mondiale.
L'auteur cherche à situer les tours et les barres d'immeubles en panneaux préfabriqués dans les différents contextes pour permettre au lecteur de se faire une idée objective sur ce phénomène considéré souvent comme une anomalie de l'urbanisme de la seconde moitié du XXe siècle. Elle rappelle les racines historiques de cette forme d'habitation qui est basée sur les idées de la charte d'Athènes lancée en 1933. C'est dans ce document retravaillé par la suite et intitulé « La ville fonctionnelle » que Le Corbusier a formulé les principes de la planification et de la construction de la ville moderne idéale. Selon ce concept, les architectes de villes nouvelles devraient créer les zones indépendantes pour les quatre fonctions, la vie, le travail, les loisirs et les moyens de transport. L'architecture et l'urbanisme d'après-guerre ont été profondément marqués par cette conception appliquée, entre autres, lors de la construction de Brasilia, la nouvelle capitale du Brésil. Ces principes ont joué un rôle important aussi lors de la planification et la construction de nouveaux quartiers résidentiels dans toute l'Europe, y compris la Tchécoslovaquie communiste. Pour des raisons politiques et économiques, leur application est restée cependant loin de l'idéal. Il n'en est pas moins vrai que les barres d'immeubles en préfabriqués qui entourent aujourd'hui les centres historiques de la majorité des villes tchèques doivent leur existence en partie au projet visionnaire de Le Corbusier. Lucie Zadražilová constate que leur aspect changeait avec le temps.
Les quartiers de bars d'immeubles en République tchèque peuvent être divisés en plusieurs générations. Nous pouvons dire que différents types de ces cités existaient dans les années 50, 60, 70 et 80 du XXe siècle. C'est la révolution de velours en 1989 qui a mis fin à ce genre d'urbanisme. Et dans chacune de ces générations, nous pouvons trouver certains aspects communs. Tout cela était bien sûr lié à l'évolution politique et sociale sociale en Tchécoslovaquie. Et c'est l'évolution des technologies qui a aussi été très importante, bien entendu.
Protože souvislo to i s vývojem technologií, to je velmi důležité.
Pendant les quatre décennies de son existence, le régime communiste a lutté sans succès contre la pénurie de logements et cherchait les méthodes les plus rapides et les plus économiques pour loger la population des villes. La construction d'immeubles en panneaux de béton préfabriqués a été bientôt adoptée comme une technologie conforme aux besoins des masses. Selon une étude d'Ondřej Špaček de la Faculté des sciences sociales de l'Université Charles de Prague, entre 1971 et 1990, 84% des nouveaux logements ont été construits de cette façon et aujourd'hui 30% des appartements en République tchèque se trouvent dans ce genre d'immeubles. Les conditions de vie dans ces cités ont été souvent critiquées pour leur manque d'infrastructures, leur monotonie et leur fadeur. Ces critiques sont justifiées, mais elles ont aussi fait naître de nombreuses idées préconçues qui ne correspondent plus tout à fait à la réalité. Lucie Zadražilová suit l'évolution dans ces quartiers en préfabriqué et les mythes les concernant qui circulent dans la population depuis une quinzaine d'années.
Il me semble qu'à l'époque, donc il y a 15 ans, il y avait plus de mythes sur la vie dans ces quartiers. On disait que les gens dans ces quartiers n'étaient pas contents, qu'il n'y avait pas de vie sociale et que les habitants de ces immeubles étaient malheureux. Je pense que maintenant, il est temps de cesser de parler des mythes et de procéder à une analyse sérieuse de ce thème, si possible de plusieurs points de vue et de façon interdisciplinaire, pour faire en sorte de rassembler une somme de données.
Pokud možnost více úhlu pohledu mezi oborově, aby se konečně nashromáždila nějaká data.
C'est aussi sans doute une des raisons pour lesquelles Lucie Zadražilová a écrit son livre. Elle démontre que ni l'architecture ni la vie dans ces cités dortoirs n'ont été aussi mauvaises qu'on le prétendait et qu'il serait injuste de nier la valeur architecturale et urbanistique de certaines d'entre elles. Dans les années 60, l'euphorie due à la libéralisation politique s'est manifestée aussi dans la qualité de l'architecture des quartiers d'habitation. En revanche, dans la période suivant l'écrasement du printemps de Prague, en 1968, celle de la normalisation, les nouveaux quartiers poussaient rapidement un peu partout, mais les bâtisseurs privilégiaient la quantité à la qualité. La standardisation et la préfabrication sont devenues formules magiques de la nouvelle architecture. Un renouveau, une humanisation des quartiers résidentiels n'a commencé à s'imposer que dès les années 1980. Lucie Zadražilová explique que c'était une sorte de retour à la ville traditionnelle.
L'idée de ce genre de quartier est née avec le fonctionnalisme et sa nouvelle conception de l'urbanisme. Les fonctionnalistes radicaux rejetaient la ville traditionnelle avec le système des rues, des ruelles et des places. Et dans les années 80, nos architectes ont commencé à revenir à l'inspiration par la ville traditionnelle, aux dimensions réduites, à l'alternance des espaces publics et privés. Ils cherchaient à créer des quartiers ayant un visage, des quartiers typiques et caractéristiques d'une certaine façon avec lesquels les habitants pourraient sympathiser. Il ne s'agissait donc pas que des barres d'immeubles gris, mais d'un milieu aux dimensions humaines et à l'aspect plus agréable.
Ale jedná se o takové lidsky příjemnější prostředí s lidským měřítkem.
Aujourd'hui, il y a beaucoup d'adversaires, mais aussi beaucoup de défenseurs des barres d'habitation. L'architecture en panneaux préfabriqués est une partie incontournable du paysage tchèque et de la vie de ses habitants. Heureusement, pendant des dizaines d'années, ces immeubles n'ont pas été réservés seulement aux locataires à faible revenu. Habiter dans un de ces immeubles n'était pas considéré comme socialement dégradant. Des ouvriers cohabitaient dans ces maisons avec des ingénieurs et des médecins. Ce n'étaient pas des HLM, c'est-à-dire des habitations à loyer modéré classique, car le loyer y était en général plus élevé que dans les maisons plus anciennes. Cela a sauvé sans doute la majorité de ces quartiers de la ghettoisation et de la désertion des locataires, phénomène typique pour les banlieues de grandes villes de nombreux pays. Aujourd'hui, beaucoup d'appartements dans ces cités sont privatisés ou font partie de coopératives d'habitation et les immeubles ont changé d'aspect. Plus de grisailles communistes, beaucoup de bâtiments ont des façades flambant neuves et couvertes d'isolation thermique. Parfois, les couleurs de ces nouvelles façades sont même trop voyantes. De grands arbres ont poussé entre les maisons et les terrains jadis désertiques ressemblent aujourd'hui souvent à des parcs. Les appels à la démolition de ces bâtiments deviennent donc de plus en plus rares et nous nous faisons à l'idée que les barres d'immeubles continueront à faire partie de nos vies. Leurs défenseurs leur vouent un véritable culte et sont au moins aussi nombreux que leurs détracteurs. Parmi eux, il y a même plusieurs artistes qui ont trouvé de l'inspiration. Lucie Zadražilová conclut.
L'époque de la construction des quartiers des bâtiments en panneaux préfabriqués est probablement révolue. Ce qui reste très actuel cependant, c'est la question de savoir comment et de quelle manière construire des logements pour les larges couches d'habitants, c'est-à-dire pour les gens aux revenus modestes et moyens. Cette question reste donc ouverte. Souvent j'entends l'opinion qu'actuellement on ne construit rien d'intéressant, qu'il n'y a pas d'une alternative valable à ces cités en panneaux préfabriqués, où un grand pourcentage d'habitants de Tchécoslovaquie ont trouvé leur foyer.
Československa tehdejšího domov, takže dnes nevzniká nic, co by mohlo být kloudnou alternativou.
C'est avec ce voyage entre les barres H&M proposé par Václav Richter que s'achève notre émission. Merci d'avoir suivi ce programme qui vous était présenté par Pierre Ménian. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur le site www.radio.cz/fr. À très bientôt. Ahoy.